Jean de la Brette, Badinage. Chapitre 1. 2 mai 1800. Lorsque grand-mère fait tourner son rouet, ma chère Yvonne, ma cousine, qui est philosophe, me dit fréquemment « Ce bruit uniforme et monotone me rappelle la vie. Oui, vraiment, l'image est saisissante de vérité. » En général, ma cousine a ces aphorismes bien faits pour déconcerter les gens, et lorsque, étonné, je lève les yeux, jamais comparaison ne parut plus fausse à un esprit auquel le calice d'une fleur qui s'entr'ouvre offre un spectacle toujours nouveau. Toute révérence gardée pour ton charmant visage, je t'ai comparé ce matin à ma cousine, pendant que, bien établie au pied d'une cépée, je lisais ta lettre en riant de ton dédain pour les infortunés attachés à leur pierre. En vérité, je ne sais si, dans tes pérégrinations européennes avec monsieur ton époux, que Dieu protège, tu marches de découvertes en découvertes, comme moi autour de mon rocher. Encore que ce mot soit pris au figuré, car on serait pendu 100 fois avant de découvrir dans notre plaine le moindre vestige de granit. Ne crois pas que je me contente de cheminer solitairement sur mes routes droites, longues et bêtes comme un peuplier. Je me jette dans tous les petits chemins de traverse qui se croisent et s'entrecroisent sous mes pas. Et je trouve, dans ces sentiers, à moi connus, une quantité d'êtres menus, fluets, à peine visibles quelquefois, mais que, malgré la ténuité de leur forme, je sais cueillir sous le moindre brin d'herbe. Je les prends, je les réchauffe, je les anime, et nous tourbillonnons joyeusement ensemble. Mais j'ai souvent pensé que j'aimerais introduire ton amitié dans nos sarabandes. Aussi, mes amis diaphanes et moi, nous t'adressons avec enthousiasme nos compliments de bienvenue. Tu seras le roi bienveillant qui écoute discourir ses sujets et laisse tomber complaisamment un mot de grâce. Sous ton chêne, tu rendras des sentences devant lesquelles je m'inclinerai, ou plus souvent me révolterai, car depuis ce bon Saint-Louis, les temps ont bien changé. Nous aurons des révolutions, des discussions, toute l'affreuse mêlée du parlementarisme au milieu de laquelle tu conserveras toutefois chaîne et couronne. Mais où le prendre souvent, ce roi vagabond? Mes lettres pourront bien se perdre, car tu es comme ces oiseaux qui, de saison en saison, s'en vont chercher un coin ensoleillé. Or, les oiseaux n'ont pas toujours de souvenance. Malgré mes craintes, ta royauté est commencée, car voici déjà une plainte et une critique qui s'échappent de mon vieux nid. Un ancien prieuré aux murs épais qui fut modifié par mon arrière-grand-père, dont le goût était exécrable, ni plus ni moins. À la façade principale, qui se compose d'un carré long, flanqué à droite et à gauche de 2 autres carrés longs, il a donné une régularité qui était la joie de ses yeux et qui, 100 ans plus tard, fait le désespoir de sa petite fille. Des simulacres de fenêtres bouchées ont été pour lui une idée artistique lumineuse et il a fait exécuter ce travail en longue rangée sur la façade, en même temps qu'au vieux toit de formes inégales, il donnait l'uniformité, sauf que l'église est couverte en tuiles et le reste en ardoise. Quant aux fenêtres réelles, devant et par derrière surtout, il y en a de toutes les tailles. Chaque goût sur les proportions peut être satisfait. Les portes, quand elles sont peintes, le sont en vert, en blanc, en brun. Il n'y a que l'embarras du choix, chacun ayant agi selon les ressources de sa bourse, variable comme le temps. Du côté du parc, grâce à Dieu, on a pu promener le compas. Un mouvement de terrain, le cœur de la chapelle et la terrasse ont sauvé la position. Les fenêtres ogivales de l'église n'ont plus de vitraux. Quelques petits carreaux sertis de plomb en sont les seuls vestiges. Un lierre, dont le gros tronc sort de l'épaisse muraille à 1 mètre de terre, cache en partie l'une des fenêtres. 2 autres sont garnies de clématites blanches qui ont poussé si dru dans l'une d'elles qu'elles sont devenues une retraite impénétrable pour les oiseaux et leurs amours. La clématite pénètre discrètement dans l'église, mais le lierre, plus audacieux, a franchi un espace de plusieurs mètres pour s'accrocher au-dessus de l'autel au socle d'une vierge décapitée qui tient dans ses bras l'enfant Jésus, dont la tête, à moitié brisée, penche depuis un demi-siècle sur son épaule d'un air commisératif. Les bons moines du XVIIIe siècle ont orné le cœur de sculptures en pierre exécutés dans le goût du temps, avec médaillons, coquilles et guirlandes. La légende raconte qu'au siècle dernier, les révolutionnaires, après maints dégâts accomplis avec l'aménité qui les caractérise, essayèrent en vain de briser la statue de Saint-Étienne de Grammont, fondateur de l'ordre, depuis longtemps éteint, qui avait ici un prieuré. On le précipita du haut de son piédestal, mais les doigts seuls se brisèrent. Modelé en terre italienne extrêmement dure, il a du mouvement et de l'expression au milieu des défauts inhérents à la malheureuse statuaire religieuse. Saint-Étienne, posé sur l'autel dépouillé de son tabernacle, est devenu dans le pays l'objet d'un culte particulier. On l'honore sous le nom de Saint-Coqueluchon, le pays entier étant convaincu qu'il guérit la coqueluche. En temps d'épidémie, quantité de bonnes femmes viennent lui adresser leurs patenôtres au milieu des barriques défoncées et des tas de fagots, car, ainsi des choses humaines et parfois même divines, l'église sert de bûcher, de cellier, et, au fond, on a installé un pressoir pour les années miraculeuses où nous avons du vin. Jadis, il n'était pas rare de voir ranger dans la nef 300 ou 400 barriques d'un vin généreux ou non, car jadis, comme tu le sais, a été de tout temps une époque heureuse et une ère de perfection pour les hommes. Depuis jadis, nos grandes terres ont été vendues et nous sommes ce que l'on appelle des gens sans le sou, à la profonde désolation de ma cousine, qui ne s'est jamais consolée de n'avoir pas 30 000 francs de rente. Ce chiffre est pour elle le sommet de la fortune, alors que pour d'autres, il serait presque la misère. Aussi, vive le relatif! C'est la grande loi qui rend la vie supportable à tout le monde et me fait penser qu'après tout, une masse de gens peuvent nous croire millionnaires. Car enfin, nous avons un cheval et une calèche. Une calèche solennelle, si haut montée sur ses ressorts, que lorsque nous sommes en marche, nous nous balançons comme un gros œuf au bout d'une ficelle. En revanche, notre cheval, qu'on a acheté prêt expirant à un paysan pour la somme de 3 pistoles, ressemble, attelé, à un basset, tant ses jambes sont courtes et tant son ventre est énorme. Mais de bons soins lui ont rendu la vie, quelque chose qui ressemble à du nerf, ou du moins à la force de nous conduire chez nos voisins, quand son humeur se rencontre avec notre désir. Mais il arrive souvent que le désir est obligé de céder le pas à l'humeur. Dans ce cas, nous rentrons philosophiquement. Ma cousine va rêver à la joie de posséder 30 000 francs de rente qui permettent d'avoir un cheval avec un ventre normal, des jambes assez longues et une humeur égale. Grand-mère monte dans sa chambre et console sa déconvenue en jouant une valse sur sa guitare ou en me chantant une romance de Mademoiselle Puget lorsque, voulant faire ma cour, je viens m'asseoir auprès d'elle et lui demande quelques morceaux de sa jeunesse. Grand-mère en est restée en 1830, la belle époque de son âge et de ses idées. En vieillissant, tous ses souvenirs postérieurs à cette époque, à part les grands chagrins, se sont atténués et le burin n'a bien marqué que les premières empreintes. Il en résulte des meubles sans grâce éparpillés dans la maison, un goût désastreux et une existence rétrospective qui établit sur un point fixe une intelligence restée très jeune et très inexpérimentée. En littérature, grand-mère a des préférences bien déterminées. Elle adore Madame de Genlis, elle aime Madame Cottin. Elle pleure en relisant pour la 100e fois le Triomphe de Corinne et Walter Scott est son idole. Grand-mère est romanesque et a une manière de trancher les grosses difficultés sans souci des obstacles et du danger. Pendant la guerre, alors qu'on parlait de l'arrivée des Prussiens en Anjou, elle ne s'est point troublée. Elle a vendu sa vache, qui aurait pu entraver ses mouvements, et fait autour d'elle cette déclaration étonnante. « Quand je saurai que les Prussiens sont à Tours, nous monterons dans ma calèche avec Walter Scott et nous irons indéfiniment devant nous pour leur échapper. » Et grand-mère se voyait comme Diana Vernon, franchissant monts, vallées, dangers, précipices, avec la sérénité du courage et d'une âme tranquille. Afin de liquider la situation, on entassa l'argenterie avec quelques objets précieux dans une cachette improvisée par ma cousine et improvisée de telle sorte qu'elle eût sauté tout d'abord aux yeux des conquérants s'ils avaient envahi le Volnay, où ils eussent trouvé la solitude et des portes assez vermoulues pour tomber en poussière à la seule vue d'une baïonnette. Les choses ainsi préparées, on attendit. Aucun Prussien ne parut à l'horizon, mais la foudre entra au Volnay avec la nouvelle de la mort de mon père, tué à l'ennemi, et l'arrivée de ma mère, malade et désespérée. Elle n'eut que le temps de me confier aux deux pauvres femmes désolées, car elle fut emportée en quelques jours par une fièvre violente. Si grand-mère tourne encore le rouet de temps à autre, joue de la guitare et vit dans le premier tiers du siècle, Madame de Ligne, ma cousine, s'agite, intellectuellement parlant, dans toute une période qui ne dépasse pas 1860. Elle parle avec un intérêt passionné de la littérature de son temps, des luttes entre veuillots, de détestables mémoires et les catholiques libéraux. Elle rêve aux philosophes et creuse des trous de souris, au fond desquels elle fait tout à coup des découvertes qu'elle consigne sur un cahier, avec l'idée, je crois, de les voir passer à la postérité pour l'éclairer sur l'état psychologique de l'homme. À la mort de son mari, qu'elle a perdu fort jeune, elle s'est installée ici auprès de grand-mère, qui l'a toujours aimée comme une sœur, et lui a laissé diriger sa fille d'abord, moi ensuite. La haute main de Madame de Ligne est légère, car je ne pense pas qu'il y ait sur terre deux créatures aussi libres que ma personne. Mais dans les déterminations sérieuses, elle impose sa voix avec autorité. C'est grâce à elle que, ayant passé 3 ans à Neuilly, chez les dames augustines anglaises, j'ai appris que l'humanité ne s'était point arrêtée à tout jamais devant Madame de Genlis ou Louis Veuillot. Si tu me demandes qui dirige la maison, je te répondrai qu'elle ne se dirige jamais mieux que lorsque personne ne s'en mêle, car grand-mère était comme toutes nos aïeules qui avaient tant de bonnes recettes pour faire difficilement les choses faciles, et quand ma cousine glissait dans son trou de souris, s'efforce de l'élargir en grignotant quelques pensées. Le pot-au-feu, dont elle connaît à peine le composant, peut s'en aller dans les flammes ou rester éternellement à l'état d'eau claire, sans que sa philosophie daigne le remarquer. Pour notre service immédiat, nous avons une vieille femme, coiffée de la grande et lourde coiffe du pays. Ma pauvre mère, lorsqu'elle était enfant, l'avait baptisée du surnom de Marie la Vache, à cause de ses fonctions auprès de cet animal. Le nom lui est resté. Elle est pourvue, pour notre malheur, d'un vieux petit homme grincheux, auquel il faut se garder d'adresser une observation, de peur d'attraper une scène épouvantable. Il a des talents de jardinier si fantaisistes que, lorsque nous voulons manger des légumes, il nous faut les acheter, à moins qu'ils ne prennent en affection un végétal quelconque. Alors il en met partout, et nous devons nous en abreuver indéfiniment. De cette façon, au bout de quelques années, nous avons vu pousser dans le jardin une certaine variété de légumes. Quand grand-mère réclame, il répond de son ton bourru « Madame n'y entend rien de rien. Je sais toujours que je puis avoir plusieurs espèces de légumes à la fois, s'écrie grand-mère fâchée, et je puis faire une observation chez moi. » Alors le bonhomme baisse la tête d'un air finaud qui me donne envie de lui tordre le cou. Au demeurant, il nous est attaché à sa façon, et nous supportons son odieux caractère à cause de sa femme, et peut-être aussi parce que nous n'avons pas 30 000 francs de rente. Pour les choses sérieuses, comme la coupe du bois et les vendanges, nous avons un homme d'affaires, le père Jeannin, qui est de l'âge de ma grand-mère, et si vert qu'il vivra bien jusqu'à 110 ans. C'est un grand et fort bonhomme, dont la bonne figure placide ne peut tromper personne. Je ne pense pas qu'un mauvais sentiment ou une mauvaise pensée ait jamais effleuré son âme. C'est le potentat de son village. On ne l'appelle jamais que Monsieur Jeannin. Et il appartient à une de ces vieilles, honorables familles de paysans dont l'éducation est supérieure au langage rustique. Il est chargé de prendre tous nos intérêts et, le cas échéant, de morigéner le fermier dont il a une peur affreuse. Lorsqu'il surprend des braconniers passant par-dessus nos murs et la gibecière pleine de nos lapins, il leur dit belliqueusement « Allons, mes gars, vous n'avez point raison !» Et il s'en va paisiblement en méditant le plaisir que l'on doit éprouver à tuer quelques bêtes. Car dans toute son existence, et malgré des efforts répétés, il n'a pu envoyer un lapin de vie à trépas. Sa femme est comme lui, grande, forte et aussi bien assortie en vieillissant qu'à l'aube de leur jeunesse. Je te les présente comme le modèle de l'union parfaite. Quand ils ont quelque chose d'ennuyeux à nous apprendre, Maître Jeannin nous expédie sa femme pour nous exécuter fermement. Au reste, que les nouvelles soient bonnes ou mauvaises, elle a un air lugubre perpétuel, et on croit toujours apprendre une horrible catastrophe quand elle ouvre la bouche pour annoncer que les vignes sont splendides. Je suis bien sûre de la réponse quand, la voyant, je lui crie « Allons, Madame Jamin, qu'est-ce qu'il y a ?»« Ah, mademoiselle, tout le pays est à la désole. C'est ben triste, salé. » « Et pourquoi ils sont à la désole, maîtresse Jamin ?»«
Parce qu'il pleut trop, mademoiselle. »
« Ou si c'est une année sèche ?»«
Parce qu'il n'y a pas d'eau, mademoiselle. Les blés sont épiés, mais il n'y aura rien dans les épis. »
Si bien que, depuis que je me connais, j'aurais passé ma vie à croire que j'allais mourir de faim ou de soif si, chaque année, je ne m'étais retrouvée plus vivante que l'année précédente. Et maintenant, comme tu le désirais, tu connais à peu près le cadre du portrait, comprendras-tu tout le charme qu'il peut y avoir dans une existence bucolique ? J'en doute, car en pension, tu rêvais déjà la vie vagabonde. Au reste, si mes lettres te paraissent monotones, tu n'as qu'un mot à dire et je ferai mes confidences aux feuilles de mes arbres qui tremblotent au-dessus de ma tête et me content tant de jolies choses que souvent, bien que je ne sois pas fille romanesque, je reste bouche ouverte à les écouter. Adieu enfin pour aujourd'hui et salut, belle dame !»